Alors, nous avançons progressivement dans notre thème. Je suppose que vous avez encore bien le titre du thème de la session en tête, qui est donc « Et pour vous, qui suis-je ?» Voilà. Alors, Yves Boulvin est un psychologue, formateur en relations humaines et consultant. Il organise depuis de nombreuses années des stages en entreprise, parallèlement à son activité de thérapeute. Il anime depuis plus de 20 ans les émissions Foi et Psychologie, retransmises sur différentes radios francophones, même en Afrique, etc. Il est l'auteur de plusieurs livres comme « Sans chemin pour trouver la paix » et « La vie, combat ou cadeau ». Il a donné déjà plusieurs carrefours ici, donc certains l'ont déjà entendu, mais c'est la dernière fois que nous pourrons l'entendre ce matin, puisqu'il retourne chez lui après. Alors, le titre de son enseignement, « Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. Le Christ, source de vie. » Alors, je ne sais pas ceux qui étaient là à la louange ce matin, on ne choisit pas les textes qu'on reçoit, qu'on a dit pendant la louange, on les reçoit par l'Esprit Saint au moment même, et ça rejoint complètement le thème d'aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui. Alors, merci à l'Esprit Saint qui a préparé déjà nos cœurs à recevoir cet enseignement.
Comme ce n'est pas habituel d'entendre un psychologue de formation parler de Dieu, ce que j'ai l'occasion de faire dans toutes les émissions de Foi et Psychologie, c'est vrai que souvent on m'appelle mon père et je suis papa. Et c'est vraiment dans mon rôle de papa que j'ai le plus rencontré Dieu. Mais d'abord, je voudrais vous remercier parce que vous m'avez fait beaucoup de cadeaux par votre présence, votre accueil, votre gentillesse. Et je te remercie, Marie-Odile, d'avoir été cet ange gardien qui m'a accueilli. Et c'est là qu'on voit tous les cadeaux de Dieu. Parce qu'une des sœurs qui prie pour moi chaque fois que j'interviens, et je ne suis pas toujours à l'aise en public, elle offre sa journée pour l'enseignement que je vais faire. Et moi, je lui témoigne tout ce que son offrande, sa prière a pu produire en moi. Et elle s'appelle Marie-Odile. Mais les cadeaux ne sont pas uniquement là, parce que, en général, elle offre pour moi de ne pas manger de chocolat le jour où je vais faire une conférence. Et je me souviens de ce jour où elle craque à une heure de la conférence et elle mange toute la tablette de chocolat. Et elle est dépitée. Et ça rejoint tout à fait l'enseignement de ce jour. Elle voulait offrir ce qu'elle allait faire de bien. Et je lui ai simplement dit, est-ce que tu peux offrir maintenant le fait d'avoir mangé ta tablette de chocolat? Voilà. La clé est là. Nous sommes des petits-enfants. On parle beaucoup ici des enfants, mais quels sont les cadeaux des enfants, sinon leur griffonnage au départ? Et pour Dieu, c'est un grand cadeau. Et Dieu nous dit merci. Et quand, au départ, l'enfant va sur le pot, si les parents le remercient de ce cadeau, c'est sûr que ça va l'aider dans sa vie. Alors que si il se bouche le nez, et juge ce qu'il vient de produire, et Dieu vraiment vient prendre tout ce que nous lui donnons, eh bien, ça va le bloquer. Je dis souvent que nous avons à tout donner à Dieu, toutes nos poubelles. Il ramasse tout cela, et il les transforme dans l'or de sa sainteté. Car ce n'est pas moi qui suis saint, c'est lui qui, en moi, est saint. Alors, je voulais vous remercier pour votre accueil, mais encore pour autre chose. C'est qu'il y a quelques mois, on m'avait demandé de participer à un livre « Pour vous, qui suis-je ?» Et j'ai mis tout mon cœur, et puis finalement, ce que j'ai mis, et c'est très bien comme ça, n'a pas apparemment été retenu. Et j'ai reçu comme un cadeau le thème de la session, puisqu'enfin je pouvais dire ce que je voulais mettre dans le livre. Les cadeaux de Dieu, ils sont partout. J'ai une fille qui vient de se marier, avec quelqu'un qui se pense non-croyant. Dans le dernier livre, « Sans chemin pour découvrir Dieu », je dis qu'il y a beaucoup de gens qui se croient athées, mais en fait, qui n'ont pas découvert d'où vient la source intérieure de leur don, de leur valeur. Et ce garçon, Loïc, ma fille s'appelle Cyrielle, la dernière, a accepté de faire une préparation au mariage. Et il y avait 3 préparations au mariage qui sont toutes tombées un dimanche. Et il a remarqué que le premier dimanche, c'était l'anniversaire de son père. Le deuxième dimanche, son anniversaire à lui. Le troisième dimanche, l'anniversaire de son grand-père. Toute la lignée paternelle. Or, c'est le grand-père qui un jour s'est disputé avec un prêtre, a claqué la porte de l'église, et depuis, toute l'hérédité s'est dit non-croyante. Et voilà un cadeau, parce que la possibilité que cela arrive, que ces 3 dimanches tombent sur les 3 anniversaires du fils, du père et du grand-père, toute l'hérédité paternelle, il y a une chance sur 48 millions. Eh bien, est-ce que je vois tous ces cadeaux de Dieu? Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Marie. Car au début du renouveau, quand j'ai rencontré toutes les communautés, j'ai été vraiment touché par ce que je voyais dans les yeux de ceux qui en faisaient partie. J'étais touché dans mon cœur et surtout, je me souviens d'un jour où j'étais à Royan de passage, déchiré. Je suis arraché de la miséricorde, comme mon ami René Luc. Et je voyais une marionnette, quelqu'un qui faisait la marionnette. Et je disais, ça, c'est moi. C'est mon côté humain, mon côté programmé. Et puis de l'autre côté, il y avait des jeunes qui chantaient, qui avaient l'air heureux. Et tout le monde s'approchait en disant, ça doit être une secte, les témoins de Jéhovah, la secte Moon. Et ils avaient l'air joyeux, ils avaient un sourire merveilleux, de la lumière dans les yeux. Et un d'eux s'est avancé et a dit simplement, nous sommes chrétiens. Voilà. Et j'ai vu des chrétiens joyeux et heureux. Alors, dans tout ce que je vais vous dire, et je vais beaucoup produire par image, je vous invite simplement à regarder celle qui va vous parler. Nous avons un cerveau gauche qui retient des mots, et je vous donnerai 2 ou 3 formules tout à l'heure, mais nous avons un cerveau droit, affectif, sensible, qui retient les images. Alors, comment je suis devenu juste psychologue chrétien, je voudrais vous dire ça en un seul mot. J'ai fait des études de psychologie à la Sorbonne, j'avais trouvé ça lourd, j'ai appris des mécanismes, mais il manquait la lumière. Et quand j'ai retrouvé totalement, quelques années après, j'avais à peu près 30 ans, totalement engagé le christianisme, j'ai vu cette lumière dans les yeux de certains. Et la communauté de l'Emmanuel, au départ, j'ai senti tellement de joie. J'avais vu Pierre Coursin, j'ai entendu que témoigner s'était donné de la joie, et j'espère que ce petit témoignage de ce matin va vous en donner. Vous avez le sourire, c'est ce qui est le plus important. J'ai vu le sourire de Marie. Le sourire de Marie. Est-ce que nous imaginons le sourire de Jésus, la bienveillance de Jésus, le sourire du Père, le merci de Dieu? C'est Dieu toujours le premier. Est-ce que nous sentons à quel point il nous remercie en tant que papa, en tant que maman, pour tous nos petits efforts, toutes nos intentions, réussies ou pas? Nous avons de grandes ambitions, mais lui sait que nous sommes petits. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous dire dans plusieurs images. Mais donc, j'étais à Paris, dans la communauté Jérusalem, des moines dans la ville, près d'une statue de Marie. Et en me relevant, j'ai senti intérieurement, je n'ai pas entendu, mais senti, est-ce que tu veux bien être psychologue dans l'église? Et j'ai dit oui. Et quelques années après avoir vécu près d'un sanctuaire, le prêtre sortait toujours, Abraham, il faut quitter ton pays. Donc j'ai cherché une communauté, je suis arrivé à Pont-Saint-Esprit. On me demande souvent si j'ai choisi pour le nom de la ville, bien sûr que non. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je suis issu d'une mère très catholique et d'un père pas croyant, et j'ai toujours désiré faire des petits ponts pour que Dieu, en tant que père de nous tous, se fait sa place en chacun. Et quand je suis arrivé ici, j'ai revu un pont et une voie ferrée. Je suis né à côté d'une voie ferrée. Donc ça ne m'a pas du tout dérangé la nuit. Mais Marie, je l'avais déjà rencontrée avant. Et si je me permets de le dire, c'est en entendant le Père Verlinde. Parce que ce qui est extraordinaire dans les enfants de Dieu, c'est que nous avons tous des vocations différentes. Et si je vais parler de cela, c'est pour dire que chacun de nous a une vocation. Et nous n'avons pas le droit de nous dévaloriser, mais plutôt de permettre à cette vocation de jaillir. Nous pouvons tous faire du bien. Eh bien, le Père Verlinde a parlé du visage de Marie avec une balafre qu'il a retrouvée en chez Sol Thomas. Eh bien, voilà moi ce qui m'est arrivé. Et si je le dis, c'est que je crois que l'éclat de Dieu, la présence de Dieu, beaucoup plus présente dans nos vies que nous le croyons. J'avais 12-13 ans, une opération banale, mais il y a une chose dont je me souviens. J'avais été endormi. C'est qu'au moment de revenir à moi, de me réveiller, j'ai vu un visage absolument extraordinaire. Ça m'a posé problème d'ailleurs après. Un visage merveilleusement souriant, des yeux de lumière, transfigurés, en relief, plein de couleurs. Et puis, petit à petit, revenant à la conscience terrestre, j'ai vu la mère de mon petit voisin, on était une chambre de 6, qui me regardait avec une certaine bienveillance. Mais déjà, j'avais senti un décalage entre le visage que j'ai vu et le support. J'avais vu au-delà du visage de cette maman. Et le lendemain, quand elle est venue revoir son petit garçon, je l'ai vue toute grise, toute petite, et je me suis dit, mais comment j'ai pu voir un tel visage? C'est tout. Ça m'a posé problème parce qu'après, dans ma vie sentimentale, c'est devenu l'étalon de beauté. Et il a fallu qu'un jour, je comprenne qui était venu me voir à ce moment-là. Une maman, la maman du ciel. Parce que à l'âge de 30 ans, je rencontre un pasteur, c'est passé comme ça. Et sa femme, qui était une ancienne catholique, avait reçu une image de Marie, une photo de Marie qu'elle me donne. Elle dit, je sens que Marie est avec toi, elle me le donne. Et je reconnais le visage que j'avais vu. Sauf que dans ce visage, il était très pâle, en noir et blanc. Et moi, j'avais vu ce visage en couleur. Et c'était Marie San Damiano. Voilà, Marie de San Damiano. Alors, il me semble que si... Et chacun de nous, on a reçu à un moment donné, comme ça, des visites d'amour de notre Père, de notre Mère Céleste. Si j'avais reçu cela, c'est sans doute parce que ma mission, c'était justement de pouvoir parler de la maternité et de la paternité de Dieu. Et c'est ce que je voudrais vous proposer ce matin. Mais avant, j'étais très touché par tout ce qu'on a entendu. Effectivement, l'eau vive. Et le chant que j'ai entendu en entrant, voilà ce qu'il dit. Et dans beaucoup d'émissions, j'avais proposé que nous écoutions bien les chants que nous chantons. Parce que sur le moment, nous sommes dans la joie, mais ces chants, ils devraient nous habiter tout le temps dans notre église intérieure. Quand je suis venu il y a 2 ans à Olué, dans un groupe de prière, il y a une religieuse qui a demandé ce qu'il a parlé du tabernacle intérieur. Est-ce que nous nous rendons compte qu'il y a un tabernacle intérieur, un endroit sacré que Dieu habite? Parce que l'eau vive, je peux la voir de l'extérieur, mais je peux la voir jaillir de l'intérieur. Et le rôle d'un psychologue, c'est comme Jean-Baptiste qui prépare les chemins du Seigneur, c'est d'aider à libérer les obstacles au jaillissement de l'eau de vie. Et je peux le dire d'autant plus que j'ai un frère qui s'est suicidé en 95, et que depuis, je sens combien il y a une aide spirituelle pour choisir la vie. Et c'était le titre de mon premier livre, Choisis la vie. Alors voilà ce que j'ai entendu ce matin. Mais on pourrait passer des mois, des années sur ces 4 lignes. Et en tant que formateur, ce que je me demande toujours, c'est qu'est-ce qui va produire la transformation intérieure? Mais ça va être la répétition tous les jours. De la même chose. D'ailleurs, je vais avant vous proposer trois formules liées à votre cerveau gauche. Après, je vais parler à votre cerveau droit par image. La première, si je me disais tous les jours, Dieu est à la source de mon être, ici, dans mon cœur profond. Dieu m'habite et m'aime. Dieu m'habite et m'aime. C'est simple, mais est-ce que je le vis? Toute la journée, est-ce que je vis cela? Dieu m'habite et m'aime, tel que je suis. Hier, il faisait beau, comme aujourd'hui, enfin, c'est ce que nous appelons beau. Et j'entendais un petit garçon qui disait, waouh, 360 degrés de ciel bleu. Et bien ce matin, waouh, 360 degrés. Mais pour bien l'appliquer dans notre vie, c'est quel que soit le temps, quels que soient les nuages, les tornades, etc., le ciel bleu est toujours là, au-delà. Comme moi, j'avais vu un visage au-delà du visage de la maman de mon petit copain. Est-ce que je suis capable, à longueur de journée, de me souvenir de la présence du ciel? Et où est le ciel? Il est partout. Il descend. Nous l'aspirons. Il est en nous. Est-ce que j'ai vraiment rencontré cet endroit de paix, de joie et d'amour? Comment? Oui? Est-ce que j'ai vraiment tué quelque chose? Très bien, bravo. Merci. Tu as combien d'enfants? 6 enfants. 6 enfants. Tu es marié? Alors tu as 7 enfants. 7 enfants. Mais ce qui est merveilleux, c'est de voir le petit enfant de lumière qui habite chacun. Et tu vois, tu as eu ce sourire et cette lumière dans les yeux, et ton mari aussi. Voilà, 7 enfants. Eh bien, merci pour la petite fille qui est en toi et qui parle de Dieu. Alors, qu'est-ce que je disais? Je sais comment on est lu quand je suis coupé. Ah oui, 3 formules, merci beaucoup. Oui, donc, le ciel est partout. Mais alors, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé un jour où j'animais un stage dans une entreprise. Tous les jours, on allait de la salle de petit déjeuner à la salle de travail. Et il y avait un monsieur, j'avais remarqué, tous les jours, il marchait comme ça, en regardant par terre. Et il faisait, waouh, 360 degrés de ciel bleu, ces jours-là. Le dernier jour, plein de nuages. Tout le stage avait été sur changer son regard, ouvrir ses yeux de lumière, voir ce qui est beau, savoir remercier, savoir voir tout ce qu'on doit aux autres. Et à un moment donné, et ça m'a fait une grande joie, ce monsieur a levé la tête pour la première fois au bout de 5 jours. Il y avait un tout petit coin de ciel bleu et il a dit, il fait beau aujourd'hui. Voilà. Eh bien voilà, est-ce que je sais voir tous les coins de ciel bleu de ma vie? Il faut d'abord avoir vécu Noël pour vivre toutes les Pâques. Jésus a d'abord vécu Noël. Et qu'est-ce que c'est que Noël? C'est Dieu qui se fait tout petit pour donner la main au petit enfant qui est en nous, n'ait plus peur, qui s'est réfugié, qui s'est bloqué, parce qu'il n'a pas reçu ce dont il avait besoin, nous en parlerons tout à l'heure. Et Jésus vient prendre par la main notre tout petit. Mais voyez, quand on est né en prison, et souvent on l'a été au moins en partie, merci papa, merci maman, je suis père et grand-père, je sais toute la difficulté d'être parent, et nous faisons ce que nous pouvons. Mais si j'ai quelque part, je suis né en prison, si je ne me suis pas senti aimé, si je n'ai pas eu ma place, si on voulait un garçon alors que c'était une fille, etc. Dès le départ, il y a eu l'amour de Dieu. Alors attendez, il faut que je retrouve ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je disais avant? Pardon? Oui, dès le départ, il y a l'amour de Dieu, mais avant. Ah oui, Noël. Bon. Ah ben, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais ça va revenir. Oui, oui, alors, mais ça c'est très bien, mais c'était plus en amont. Ouais, c'est pas grave. Oui, c'est gentil, alors, merci beaucoup. Oui, c'est ça, mais je ne sais plus la suite de ce que je voulais dire. Alors, Oui, voilà, prison. Bravo, merci beaucoup. Voilà, c'est le mot prison qui a dû me bloquer. Je vois beaucoup de prisonniers et de gens qui ont vécu l'horreur de la prison. Mais quelque part, nous sommes tous emprisonnés par notre psyché, nos programmations, nos fausses croyances et encore des images fausses de Dieu. Eh bien, si quelqu'un est né dans une prison et qu'il a toujours connu cette prison, il trouve son confort dans la prison. Et quand Jésus vient ouvrir la porte, il faut qu'il le fasse avec beaucoup de délicatesse parce que cette personne ne va pas se précipiter en disant « Vive la liberté ». Au départ, la lumière va lui faire mal aux yeux. Et il va falloir tout un apprivoisement. Et le Seigneur vient nous apprivoiser, comme le renard dans le Petit Prince, en nous parlant avec tendresse, en se mettant à notre niveau. Et c'est pourquoi il est le plus grand, mais aussi le plus petit. Et c'est parce que je l'ai d'abord découvert petit, venant parler et rassurer mon tout petit, que je vais pouvoir après évoluer. Alors, ah oui, donc il y avait trois. Donc le premier, c'est Dieu m'habitait même. Le deuxième, c'est le meilleur est devant moi. Là, qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, nous revenons sur le passé. Nous ruminons. J'aurais dû si j'avais. Mais ce qui est, est. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le grand transformateur qu'est Dieu va faire un bien de tout ce que nous lui donnons sans aucune exception. Et alors, au lieu de regretter ce qui est fait, et c'est fait, c'est quelle leçon j'en tire. Et le Seigneur ne nous juge pas, ne me condamne pas. Il avait beaucoup de raisons de le faire dans ma vie. Et toute ma reconnaissance, c'est qu'il m'a toujours aidé à repartir, à rebondir. Qu'est-ce que je disais? Je me dis, ça se coupe tout le temps. Pardon? Oui, le meilleur est devant moi. Donc, le Seigneur, ce qu'il nous apprend, c'est au lieu de nous culpabiliser à outrance, c'est sûrement d'avoir une contrition par rapport à nos erreurs. Je le regrette, c'est pathétique, j'ai fait du mal, je me suis fait du mal, je n'en veux plus. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'ai entendu cette phrase souvent intérieurement, c'est « Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu choisis? Comment tu fais avec tout ça ?» Et la troisième phrase, c'est « Il n'est jamais trop tard, mais jamais, jamais trop tard. » Même si j'aurais voulu toute ma vie que mes parents me disent qu'ils m'aiment et qu'ils ne pourront jamais me le dire, ils me le diront lorsqu'ils auront quitté leur corps physique. Et j'ai assisté à tellement de réconciliations de parents qui sont venus demander pardon et des pardons au-delà de la mort. Car lorsque nous allons nous retrouver devant l'amour infini de Dieu, nous allons prendre conscience et de notre potentiel d'amour et aussi de tous les blocages à l'amour, la possession, la domination, les manipulations, les intrusions, etc. Et en prenant conscience, on vient demander pardon. Il n'est jamais trop tard. Le meilleur est devant moi, c'est évident parce que nous allons vers ce qui est de plus grand, de plus beau, c'est-à-dire le ciel, ce que nous avons désiré depuis toujours, ce ciel qui nous habite déjà en profondeur mais que nous ne connaissons si peu. Et j'entendais un jour sur Radio Notre-Dame, une des radios où passent les émissions, un prêtre qui disait que pour lui, le purgatoire, c'était une salle de gymnastique, où on réapprenait les muscles de l'amour. Et moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que quand on va rencontrer, et je connais des religieuses qui sont mortes cliniquement, comme on dit, ont approché la mort et sont revenues à la vie, et qui m'ont raconté ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont vécu dans l'amour divin, un amour absolument extraordinaire, celui que nous avons toujours désiré, que nous avons cherché partout, dans notre vie amoureuse, dans notre réfrigérateur, dans l'alcool, nos enfants, dans les drogues, mais sans cesse nous sommes en recherche, c'était le père Verlaine de René Luc qui disait ça, nous sommes en recherche tout le temps de ce que nous ne retrouverons jamais, et j'ai connu cette soif absolument épouvantable, pas seulement quand il fait chaud, et parce que je n'avais pas encore rencontré l'eau de vie. Alors, attendez, il faut que je me raccroche là. Pardon. Qu'est-ce que je choisis? Oui, oui. Alors, oui, non, mais j'étais donc. Lorsque je vais rencontrer Dieu, lui sera dans son amour infini. Mais je vais donner un exemple. Si lui est au sommet de l'Everest, c'est une image. Moi, je suis au sommet de ma maison. Et il va falloir que petit à petit, j'apprenne à respirer un air de plus en plus pur. Eh bien, tout ce que je vais dire ce matin, dans le temps qui reste, si je m'y retrouve, c'est pour que justement on puisse nettoyer tous ces encombrements, toutes ces lourdeurs. N'oublions pas l'Esprit Saint est léger, une colombe c'est léger, une langue de feu c'est léger. Alors voilà ce que j'ai entendu au Jésus, sauveur, cœur brûlant d'amour. Est-ce que vraiment, quand je pense à Jésus, mon bien-aimé, je vois un cœur tout brûlant d'amour? Marie, cœur d'or, comme c'est extraordinaire. Notre Père céleste, qui m'a vu, a vu le Père. Cœur d'or, et nous, tout brûlant d'amour, c'est les pèlerins d'Emmaüs. Jésus sauveur, cœur brûlant d'amour. Vous savez que pour se sentir sauvé, il faut avoir conscience aussi de tout ce qu'on a fait sans Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est que plus on a été creusé par nos erreurs, plus Dieu vient le remplir par son amour. Et cela fait jaillir en nous la reconnaissance. Je ne peux pas vivre sans toi, parce que j'ai vécu sans toi et je sais ce que ça a donné. Nous te bénissons. Est-ce que nous rendons compte que nous avons cette faculté extraordinaire de bénir? Et dans un des livres, je disais qu'à la fin de chaque journée, je puis dire, Seigneur, tu bénis. Toutes les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, tu connais toute leur vie, tu les bénis au centre d'eux-mêmes. Seigneur, tu bénis en particulier tous ceux qui ont pensé à moi, tous ceux à qui j'ai pensé. Au cours de la journée, j'ai vu des tas de visages intérieurement, et quand je disais « Dérégis-toi Marie, je vous salue Marie », je voyais des visages qui les bénis. Tu bénis tous ceux qui m'aident dans l'au-delà, tous ces amis invisibles que je retrouverai après ma mort. Mais surtout, Seigneur, tu bénis les personnes avec qui j'ai des conflits. Parce que même si c'est difficile, en profondeur, je sais que ce sont tes enfants que tu aimes, qui ont une valeur. Alors Seigneur, tu les bénis. Et tu bénis entre autres cet automobiliste qui m'a fait une queue de poisson, comme on dit, et que j'ai engueulé. Nous te bénissons, toi, la source de vie. Mais c'est extraordinaire ça, mais où est la source de vie? Dieu est partout au ciel, sur la terre, en tout lieu, disait le catéchisme. Mais en tout lieu, c'est donc aussi en moi. Et dans les vêpres byzantines, on dit Dieu qui est partout présent, donc aussi en moi. Est-ce que je me rends compte qu'il y a tout au long de la journée une source claire, limpide, transparente, qui vient tout irriguer? Et mon travail de psychologue, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de bouchons, que j'en vois en sorte qu'on voit toutes les complaisances que je peux avoir avec des habitudes du passé. Je connaissais une petite fille qui avait été abandonnée par ses parents. Elle était à la DAS. Un jour, elle voit arriver des parents, elle croit que c'est pour elle, elle se précipite, ils prennent la petite fille à côté. Et puis après, son père l'a repris, mais il l'a brûlé avec des cigarettes. Quand je l'ai connue, elle avait fait 11 tentatives de suicide et elle s'est tapée la tête contre les murs. La seule chose qu'elle connaissait, c'est cela. Et j'ai vu une professeure qui se jetait dans les escaliers à toutes les vacances pour être hospitalisée, pour ne plus être seule. Vous voyez, toutes les habitudes que nous avons parce que la source ne peut pas couler. Alors le meilleur est devant moi. Le meilleur est devant moi. Je vais avec confiance, comme le petit enfant qui sait qu'il est aimé, qui sait qu'il y a des cadeaux de la vie. Je ne sais pas ce que sera l'avenir. Il n'est pas projeté, mais je fais confiance. Et je sais que ça va me remplir et me faire grandir. Et que le Seigneur m'aidera à tout transformer en bien. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques images là-dessus. Alors d'abord, c'est juste pour la plaisanterie, c'est peut-être la façon dont nous avons été formés. C'était un dessin que j'ai vu dans un journal. C'était une dame apitoyée à l'église, mais vraiment consternée. Et voilà son dialogue intérieur. « Ah Seigneur, il y a 15 jours, quand je suis venu dans ton saint lieu, à la sortie, mais la messe a duré un peu longtemps, je me suis précipité à la boulangerie pour acheter des religieuses. Ce sont des gâteaux. Hein. Pour acheter des religieuses. Et il n'y en avait plus. Et quand je suis revenu chez moi, mon mari s'est mis en colère. Et moi, je me suis mis en colère parce qu'il s'était mis en colère. Alors, la semaine dernière, Seigneur, avant de rentrer dans ton Saint-Lieu, mais le Saint-Lieu est ici aussi, hein, avant de rentrer dans ton Saint-Lieu, j'ai été voir la boulangère et je lui ai demandé de me garder des religieuses. Mais quand je suis sorti, la messe ayant été un peu longue, il n'y en avait plus. Et mon mari s'est moqué de moi. Et je me suis remis en colère, pardon mon Dieu. Alors aujourd'hui, Seigneur, et c'est pour t'expliquer pourquoi je suis rentré dans ton Saint-Lieu avec une boîte de religieuses. Je suis passé à la boulangerie avant la messe. Et je les ai bien mises à côté de moi, pour être sûr, cette fois-ci, de les avoir. Alors je te remercie, Seigneur, parce que je sais que tu m'as puni. Et que comme tu n'étais pas content, tu as fait en sorte qu'au moment de l'homélie, je me sois assise sur les religieuses. Eh bien voilà le type de croyance auquel je suis confronté tout le temps. Alors maintenant, c'est dans une autre église, excusez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais c'est quand même merveilleux. C'est un petit enfant qui suit la messe, et c'est un peu long pour lui, sa maman est là, c'est un pasteur qui racontait ça. Et le petit enfant tire la jupe de sa maman et il montre un vitrail où il y a un chrétien, quelqu'un, et sa maman. Et il demande, c'est qui ça? Et sa maman qui voudrait prier dit, c'est un chrétien. Je ne sais pas bien qui c'est un chrétien. Il leur demande, quelque temps après, en regardant de l'autre côté, hein, il montre un autre vitrail, c'est qui ça? C'est un chrétien. Il repose la troisième fois la question pour un autre vitrail, c'est un chrétien, sa maman veut prier, et la semaine d'après, quand il va au catéchisme, il connaît la réponse. Parce que la catéchiste demande, qu'est-ce qu'un chrétien? Et il répond, non pas c'est quelqu'un de bien, qui vient à la messe avec ses enfants tous bien habillés, en plus elle travaille comme ça, tous les autres se dévalorisent autour, comme j'ai déjà entendu. C'est pas quelqu'un de parfait ou qui veut être parfait, le perfectionnisme est le contraire de recevoir la sainteté de Dieu dans nos imperfections. Il n'y a de perfection que dans l'imperfection parfaitement acceptée et traversée par la perfection de Dieu. Et donc, il répond, un chrétien, c'est quelqu'un, et c'est ce qui m'est arrivé il y a une trentaine d'années avec le renouveau, à travers qui on voit la lumière. Ce n'est pas quelqu'un qui est la lumière. J'avais vu deux ou trois maîtres orientaux quand j'avais 20 ans, et ils émanaient une lumière extraordinaire, mais c'était comme la lune qui cache le soleil. Et tout le monde les regardait, eux, au lieu de voir à travers eux. Et là, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un de tout propre. Les vitraux ne sont pas si propres que ça, si bien agencés. Mais c'est quelqu'un à travers qui on voit la lumière. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être quelqu'un à travers qui on voit la lumière de Dieu? Donc, je vais me laisser traverser dans toute ma vie, dans toutes mes imperfections, quelles qu'elles soient. J'étais à la Sainte-Chapelle à Paris, où il y a des vitraux absolument extraordinaires. Une après-midi, j'étais émerveillé par la couleur de ces vitraux. Le soir, je vais y retourner pour écouter un concert de musique. Mais j'avais oublié une chose. C'est qu'aussi belles étaient ces personnes, aussi belles, beaux étaient ces vitraux, le soir, on ne voyait plus rien. Quelqu'un qui se recentre sur soi, en se culpabilisant tout le temps, en s'en voulant, en étant dans la soumission ou la rébellion, quelqu'un qui ne reçoit pas le cadeau de Dieu qui l'habite, ne va plus laisser passer la lumière. Voilà, et c'est ça. Quand j'ai entendu Pierre Goursa au départ de l'Emmanuel, et les premières fois où j'entendais parler de témoignage, il était dit, témoigner, c'est donner de la joie. Voilà. Et la joie, c'est que tel que je suis, je peux faire passer la lumière. Alors, qu'est-ce que Dieu fait de notre vie? Alors, je voudrais vous raconter deux ou trois histoires. La première, c'est Jésus à la crèche. C'est Jonathan qui arrive à la crèche et il avait préparé un beau cadeau pour Jésus. Mais il l'a cassé en chemin et il arrive tout triste auprès de Jésus. Et il dit simplement, Jésus, j'aurais tellement voulu te faire un cadeau, mais je l'ai cassé. Alors Jésus le regarde avec une tendresse infinie, avec une... Si nous voyons le regard de Jésus, son sourire, et il dit, mais Jonathan, je vais te demander trois cadeaux. Oh oui, Jésus, je te donne mon jeu vidéo, mon train électrique, et ce livre, il y a plein d'images. Non, je ne suis pas venu pour ça, dit Jésus. Est-ce que tu veux bien, Jonathan, me faire trois cadeaux? Oh oui, Jésus. Alors le premier cadeau, est-ce que tu veux bien me donner ton dernier devoir travail à l'école? Mais Jésus, il est marqué insuffisant. Et j'ai une mauvaise note. Eh bien, est-ce que tu veux bien me donner tous les moments de ta vie insuffisants? Tous les moments où tu as été critiqué et jugé? Tous les moments qui t'ont fait mal? Oh oui, Jésus. Mais j'ai un deuxième cadeau à te demander, Jonathan. Est-ce que tu veux bien me donner ta tasse du petit déjeuner? Oui, c'est très concret. Ton bol. Alors Jonathan sursaute et dit, mais je l'ai cassé ce matin. Eh bien, est-ce que tu veux bien me donner tout ce qui est cassé dans ta vie? Toutes tes déchirures, j'ai besoin de cela et je passerai à travers elles. Mais surtout, Jonathan, j'ai un troisième cadeau à te demander. Est-ce que tu peux me donner ce que tu as répondu à ta maman quand le bol est tombé par terre? Oui, c'est très concret. Oh, alors là, Jonathan est bouleversé. Il commence à pleurer à chaudes larmes. Il se rapproche de Jésus qui le prend tout près de sa joue. Et pour que ce ne soit pas entendu, qu'il parle très doucement. Qu'est-ce que tu as dit, Jonathan? J'ai dit que c'était ma petite sœur qui l'avait cassé. Mais en fait, c'était moi, parce que j'étais très en colère. Eh bien, Jonathan, est-ce que tu veux bien me donner tous ces moments où tu t'es senti accusé, tous ces moments où tu as menti, toutes tes jalousies? Jonathan, c'est cela que j'attends de toi. Alors, Jonathan a souri et son cœur jubilé. Alors, l'application de cela, je le dis souvent, c'est dans nos vies. C'est d'abord apprendre à voir les coins de ciel bleu, les coins de Noël pour vivre les Pâques, les passages, mais c'est aussi de tout donner. Et là, nous n'avons pas l'habitude. Alors moi, j'ai une formule que je vous propose. Thérèse de l'Enfant Jésus disait que quoi qu'elle ait fait, ce serait une goutte d'eau dans un brasier ardent, donc il y a un brasier. Mais elle disait aussi que ramasser une épingle par terre peut sauver une âme. Donc, tout petit geste, toute petite chose vécue autrement, on dit que les mystiques vivent de façon extraordinaire des choses ordinaires. Eh bien, imaginez une grande cheminée, là où j'habite, on s'échauffe à la cheminée. Tous les jours, je mets des bûches dans la cheminée, elles ne sont pas toujours propres, pas toujours du même acabit. Eh bien, voilà la formule. Jésus a besoin que nous donnions au fur et à mesure de nos journées, non seulement pour nous libérer de nos lourdeurs, mais aussi pour faire du bien à autrui, parce que le feu de la cheminée va réchauffer, éclairer partout dans le monde, et aussi dans l'au-delà, ceux qui sont en marche vers Dieu, en route vers Dieu, je vais lui donner mes bûches, les bûches de mes réussites, mes embûches, là où je trébuche. Et alors là, c'est un jeu de mots, et surtout quand je suis mal embûché. Bûche, trébuche, embûche. Et je donne tout. Et je me rends compte que quoi qu'il se passe, je vais le donner et qu'il transforme tout en bien. Regardez dans la photo, j'avais commencé ça hier et j'ai pas terminé l'histoire, donc je vais la terminer aujourd'hui. Dans la photo classique, quand on prend la photo, plus la lumière rentre, plus le négatif est noir. Mais le grand transformateur, le révélateur, et Jésus est révélateur, va transformer le négatif en positif. et je vais donc tout lui donner. Et quand on est petit et qu'on s'occupe d'un petit enfant, on voit qu'il a envie de tout donner. Alors, est-ce que je sais donner? Est-ce que je sais recevoir? Vous vous souviendrez de ça? Mais il y a une autre histoire que je préfère encore. C'est l'histoire du porteur d'eau. Alors, c'est un homme qui a une grande latte de bois et il est porteur d'eau. Et tous les jours, il porte de l'eau au maître qui est en haut de la colline. Il a des deux côtés deux jarres. Moi, je préfère, vous allez voir pourquoi, appeler ça des cruches. Il a deux cruches. Il y a une cruche parfaite, c'est-à-dire qu'elle garde bien son eau. Et il y a une cruche cassée qui laisse tomber la moitié de son eau. Et un jour, la cruche cassée n'en peut plus. Et elle dit au transporteur d'eau, à cause de moi, tu perds la moitié de ton eau. Et là, le porteur d'eau la regarde avec beaucoup de tendresse et lui dit, bien demain, quand nous monterons le long de la colline, tu regarderas au bord du chemin. Et le lendemain, elle voit tout au bord du chemin des tas de fleurs. Et le porteur d'eau lui demande, mais est-ce que tu as vu de quel côté sont tes fleurs? Elle n'avait pas regardé, elle regarde, elle dit, oui, de mon côté. Eh bien, voilà la révélation. Le porteur d'eau lui dit, je savais que tu perdais la moitié de ton eau. Alors, j'ai mis des graines tout au long du chemin. Et l'eau que tu perds chaque jour les fait fleurir, le jardinier de Pâques. Est-ce que Jésus est mon jardinier, le jardinier de mes fleurs? Et ainsi, chaque jour, je peux amener la moitié de l'eau, plus des fleurs au maître. Voilà ce que Dieu fait de nos vies offertes. Alors, il y a trois sortes de cruches. J'espère que vous êtes contents d'être des cruches. C'est merveilleux d'être une cruche. Parce que une cruche, ça doit d'abord se remplir pour pouvoir donner. Est-ce que vous recevez l'eau de Dieu, mais l'eau des autres, lorsqu'ils vous remercient, lorsqu'ils vous valorisent, au lieu de dire, mais non, je ne suis pas comme ça, le recevoir, ça fait du bien pour être rempli et donné. Alors, il y a les cruches parfaites. Mais les cruches parfaites ne savent pas à qui elles doivent tout cela. Et en fait, elles sont un peu ridicules. C'est comme dans Blanche-Neige, les sœurs de Blanche-Neige qui vont au bal, mais le prince ne les voit pas. Il va voir la dégoûtante, celle qui vit dans la cendre. Alors, il y a le deuxième type de cruche que nous sommes peut-être. Ce sont des cruches qui s'en veulent d'être imparfaites et qui passent leur temps à se culpabiliser. Et puis, il y a un troisième type de cruches qui savent qu'elles perdent leur eau, mais qui voient ce que Dieu en fait et qui sont reconnaissantes. Est-ce que nous pouvons tous être des cruches reconnaissantes? Ça vous dit ça? Il me reste encore 20 minutes, tout ça. Combien? 15 minutes. Alors, il y a aussi quelque chose que je voudrais dire au niveau de ce que nous pouvons faire de nos vies. Si je vous dis tout ça, c'est que, en comprenant tout cela, je vais changer l'image de Dieu. Comment je peux penser encore un instant que Dieu est venu pour juger? Est-ce que dans mon rôle de papa et de maman, et j'entends tout le temps des pères et des mères qui s'inquiètent pour leurs enfants, je ne voudrais pas tellement qu'ils s'en sortent? Est-ce que je ne suis pas mis devant une patience, une persévérance qui ira jusqu'au bout? Et jusqu'au bout, j'aurais envie. Ce n'est pas un papa et une maman qui va dire « Je ne te connais plus, tu n'es plus mon fils, etc. » Comment Dieu pourrait-il un instant nous oublier? J'entends souvent des gens qui disent « Oh, il joue à cache-cache, où il est, il ne m'a pas entendu, etc. » Mais c'est moi qui m'éclipse. C'est moi qui m'éclipse. Dans les poupées russes, l'image que je donne souvent, dans la petite poupée centrale, la petite poupée à l'intérieur, elle est toujours là. La source divine est toujours là. La seule chose, c'est que c'est moi qui repars tout le temps dans mon psychisme, mes ruminations, mes interprétations, mes regrets, mes projections dans l'avenir. Et c'est ça qui va bloquer. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est la porte des agneaux. Je le dis maintenant parce que je vais oublier. Chaque fois que je suis venu en Belgique, il y a toujours eu quelqu'un pour dire parle-nous de la porte des agneaux. Je me souviens de quelque chose que j'ai vu à la télévision. C'était un garçon, il conduisait une voiture, il avait sa fiancée à côté de lui et deux autres personnes derrière. Et il a pris un virage beaucoup trop vite. Un peu comme René Luc sur sa moto il n'y a pas longtemps, le pauvre. Et accident, la fiancée est morte et les gens derrière ont eu quelques blessures. Il se faisait que la mère de cet homme était une amie des parents de la fiancée. Et j'ai pu voir, et j'ai vu des cas semblables, combien il y a eu un pardon entre eux. Et entre autres, parce que la mère de la fiancée, en allant sur la tombe de sa fille, a ressenti intérieurement, pardonne-lui, il ne l'a pas fait exprès. Père, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Elle a pardonné. Et les personnes qui ont été derrière, qui ont eu quelques égratignures, ont fait 10 à 15 ans de procès. Voilà. J'ai à me protéger, j'ai à me défendre, mais est-ce que vraiment le pardon de Dieu coule à travers moi? Mais si c'est la parabole des deux débiteurs, du débiteur impitoyable, si je sais combien Dieu m'a remis une dette formidable, comment je pourrais en vouloir à quelqu'un qui me fait la gueule, qui boude? Et c'est pas facile, la vie conjugale, la vie communautaire, j'entends ça tous les jours, je le connais bien. Comment, si je me rappelle de ce que Dieu m'a donné? Alors, la porte des agneaux, c'est la petite porte, c'est les enfants qui la passent. Mais la porte des agneaux, nous sommes tous à l'intérieur, un petit agneau, une petite agnelle. Jésus est un agneau et un lion, lion de la tribu de Judas. La porte des agneaux, c'est souvent un événement de notre vie pour lequel nous ne pouvons pas grand-chose. Il y a eu des événements où nous avions notre part de responsabilité et nous avons à le regretter, le reconnaître, et Dieu vient refaire couler la vie. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment injustes. Pensez au viol d'un enfant, à certaines morts, à certains accidents. Et François d'Assise disait que la grandeur d'un homme est dans l'acceptation de ce qui est. Eh bien, la porte des agneaux, c'est de comprendre que la plus grande bûche de ma vie, ça va être ce que j'ai de plus de mal à offrir. Ma vie conjugale, parce qu'elle est difficile. Le suicide de mon mari, un accident, un handicap, une maladie. Et c'est là où nous pouvons tous nous aider. Alors, qu'est-ce que dans ma vie m'a le plus touché et que j'ai du mal à donner? Alors, c'est la plus grande réussite de ma vie, non pas que Dieu l'ait voulu, mais maintenant que ça a eu lieu, c'est la plus grosse bûche qui va éclairer le monde. Nous sommes tous reliés d'une façon ou d'une autre. Alors, au lieu de ruminer, d'en vouloir et de m'en vouloir, je dis voici Seigneur. Alors, c'est pas... Même si j'ai pas de travail, même si je suis chez moi sur mon lit de malade, etc., au moins ce que je peux faire, c'est offrir toutes ces bûches. Et je ne me rends pas compte à quel point ça fait du bien. Il y a une mystique qui avait vu des âmes qui allaient vers Dieu. Et un jour, elle voit quelqu'un qui était mal parti, selon elle, qui s'approche d'un endroit où il aurait mieux fait de pas aller. Et à ce moment-là, il y a un courant d'amour qui va vers lui. Parce que, à des milliers de kilomètres de là, il y a un homme qui offrait sa journée. La communion des saints. Nous ne nous rendons pas compte, et le malin va nous le cacher sans cesse, à quel point dire oui à ce qui est, embellir notre vie, rendre extraordinaire chacune des petites actions de notre vie. Je fais la vaisselle, mais ce n'est pas seulement la vaisselle, parce qu'il faut, c'est pour mettre de l'ordre, mais c'est aussi par amour pour mes enfants ou la famille, mais c'est aussi pour me nettoyer, pour nettoyer les autres. Et je pense à tous ceux qui ne peuvent pas faire la vaisselle, passer l'aspirateur parce qu'ils n'ont pas de bras, parce qu'ils sont en prison, parce qu'ils ont été dans les tranchées. Et tout le temps, tout acte que je fais va pouvoir être embelli. Alors la porte des agneaux, je crois que le Seigneur est aujourd'hui, si vous avez un moment, va me montrer que ce qui est le plus difficile à vivre dans ma vie est la plus grande réussite dans son cœur qui transforme tout en bien. Alors je voudrais dire une dernière chose, il me reste 10 minutes à peu près. Alors je voulais parler un peu des langages de l'amour. Parce que il y a une chose dont je m'aperçois souvent quand je viens dans les groupes de prière et autres, c'est qu'il y a une chose que nous avons beaucoup de mal à faire, c'est dire notre amour et le recevoir. Et recevoir un compliment, tu es belle, tu es beau, merci, sans dire, ouais, mais tu ne me connais pas, ou oui, mais je ne suis pas toujours comme ça. Dire simplement merci, recevoir. Donner, recevoir, donner, recevoir. Il y a beaucoup de personnes dans le milieu chrétien qui savent mieux donner que recevoir. Alors, ce qu'il faut voir, c'est où est-ce que nous avons été déformés. L'idéal, ça aurait été qu'au départ, nous ayons des parents, un papa et une maman, mais c'est très difficile d'être parent. Et Dieu nous bénit pour tout, tout ce que nous avons essayé de faire, qui m'a dit, tu es ma petite fille chérie, tu es un cadeau. Si tu savais comment on était heureux quand tu es venu. On t'a attendu si longtemps, tu nous donnes tant de joie. Et qui sait dire son amour, qui sait valoriser, qui sait prendre dans les bras, qui sait regarder avec tendresse. Là, je perçois déjà quelque chose du regard de Dieu, mon père et ma mère, qui a toujours été là. C'est Dieu, mon père et ma mère. C'est lui qui m'a donné la vie et pas les parents qui sont des relais. Et souvent, je ne l'ai pas eu. On ne m'a pas dit suffisamment, on m'a pas révélé suffisamment ce que j'étais. Et du coup, je suis devenu, et je l'ai été, un vilain petit canard qui ne connaît pas son identité de cygne. Car dans l'histoire du vilain petit canard, c'est un cygne qui n'a pas été identifié. Et Dieu va venir en tant que père et mère pour nous révéler ce qu'il a mis en nous. Les qualités que Dieu a mis en nous ne nous appartiennent pas. Nous en sommes gestionnaires, locataires et non pas propriétaires. Et c'est sa louange de pouvoir dire, oui, c'est vrai, Dieu a mis en moi ces qualités. Je les déforme parfois, mais il y a ça en moi et je vais en faire profiter les autres. Et quelqu'un qui connaît ses qualités travaillera beaucoup mieux ses défauts. Est-ce que j'ai vu mes parents se prendre dans les bras? J'ai souvent vu, j'ai la chance extraordinaire que des prêtres viennent me voir, ou des religieuses, et je me souviens de prêtres, qui me disaient, je sais que Dieu m'aime, mais je ne le sens pas. Alors en tant que psychologue, j'ai simplement posé la question, parce que quand il y a un blocage, souvent qu'il y a une origine. Et c'est important, toutes nos réactions trop fortes, nos blocages, nos réactions disproportionnées, renvoient à des blocages du passé. Le problème n'est pas de s'amuser à aller dans le passé, mais d'aller retrouver ce qui était à l'origine pour que Dieu puisse nous en libérer et que nous ne continuions pas à infliger notre passé aux autres. Et je demandais simplement à ce prêtre, est-ce que ton papa, et à une époque ce n'était pas beaucoup le cas, qui a été plus un père qu'un papa, simplement te disait qu'il t'aimait, te prenait dans les bras. C'est tout simple. Il m'a dit non, jamais. Voilà. La sensation que je peux avoir à un moment donné de ma vie, de me sentir aimé par quelqu'un. Ça peut être mon père, ma mère, mais ça peut être quelqu'un d'autre ensuite. Et j'ai vu des gens se reparenter avec la petite maison dans la prairie, parce qu'ils voyaient là un papa qui aimait ses enfants. Moi, je n'ai pas connu ce père. Mon père était quelqu'un de très bien, mais pas du tout affectueux. Mais je me souviens, et regardez ce que nous pouvons faire de la mémoire que Dieu nous donne. J'ai vu un papa un jour, j'étais invité chez lui, et il appelait ses enfants par des petits noms, ça va monter nous, etc. Moi, je n'avais jamais entendu ça. Il y avait une araignée sur le mur, il prenait un sopalin, il la mettait dehors. Et j'ai vu tellement de tendresse et de douceur, je me suis dit, ben voilà un papa. Et ben, c'est sans doute ça a dû m'aider, parce que quand j'ai pris mes petites filles dans les bras, j'ai senti un débordement d'amour, peut-être parce que je ne l'avais pas reçu. Un débordement d'amour, j'ai jamais pensé que ça venait de moi. Et c'est là où j'ai rencontré Dieu. C'est dans l'amour que je ressentais pour mes petites filles, si fragiles, des petites Aniel, extraordinaires, et qui étaient passionnantes alors qu'elles n'étaient pas des érudites. Je te remercie, Père, de ce que tu as caché ça aux intelligents et aux sages et que tu l'as révélé aux tout petits. Alors, si je me souviens les moments d'amour que j'ai eus, même si ce n'est plus, même si après je les ai déformés, même si je me suis fait larguer, et ça a été mon cas un certain nombre de fois entre 20 et 30 ans, eh bien, à ce moment-là, j'ai touché l'amour de Dieu, la sensation de l'amour de Dieu. Et ça, je vais pouvoir m'y connecter, parce qu'à l'intérieur, il y a de moi, il y a quelqu'un qui m'aime, qui me dit son amour, dit seulement une parole, et je serai guéri. Alors je dis souvent, alors c'est quoi cette parole? Est-ce que je sais dire « je t'aime » Est-ce que je sais recevoir quand tu me dis « je t'aime » Alors je vois beaucoup de couples, par exemple, où il y en a un qui aimerait beaucoup que l'autre le lui dise. Et comme l'autre ne sait pas le dire parce qu'il n'a jamais reçu, ou qu'il est un peu perfectionniste, ou elle est un peu perfectionniste, eh bien, il y a un blocage, et la personne sensible, par rapport à la personne qu'on appelle stoïque, va redemander sans cesse ce que l'autre ne peut pas donner, et va se bloquer. Et on dit que chez les personnes qui ont un comportement stoïque, c'est comme une huître qui se ferme. Il y a une perle dedans, mais pour que ça s'ouvre et que la perle sorte, parfois il faut beaucoup de temps. Voilà. Pourquoi la personne qui dit « je t'aime », mon chéri, elle n'aime pas parfaitement. Ce n'est pas tout moi qui t'aime. Mais si je dis « je t'aime », ça veut dire que je sens un courant d'amour qui va vers toi. Personnellement, je le sens vraiment le plus quand des personnes viennent voir le petit psychologue que je suis pour parler de ce qui leur a fait le plus mal, de ce qui leur a fait le plus honte. Je sens un amour débordant. Je suis reconnaissant pour ces personnes parce que c'est là où je sens le plus l'amour de Dieu. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Pardon. Voilà. Alors, je crois que la guérison que nous avons tous à avoir, d'abord, c'est de savoir redire « je t'aime », ce qui ne veut pas dire « tout moi aime tout toi ». Et la personne qui ne sait pas le dire, c'est en général parce qu'elle attend que l'autre soit parfait et que tout elle aime tout dans l'autre pour pouvoir le dire. Mais alors, on ne le dit qu'à Dieu. Et c'est vrai que seul Dieu est parfait. Apprendre, réapprendre à dire « je t'aime » et le recevoir. Alors, il y a une expérience qui a été faite avec des petits singes que je voudrais vous raconter, puis je vais finir par une prière. Elle est extraordinaire parce que c'est un peu notre histoire et ça aurait été violent si ça avait été fait avec des petits hommes. Tu vois, je vais la raconter. C'est la suite, non ? On met des petits singes, c'est nous les petits singes. On met des petits singes dans une cage avec une maman singe. On fait peur aux petits singes. Et Dieu sait si les enfants ont des peurs. Le prochain livre que je vais écrire, c'est « Sans chemin pour se libérer de ses peurs ». À votre avis, que font les petits singes? Ils se précipitent dans les bras de la maman singe qui les serre contre son cœur, qui les rassure. Ceux-là, plus tard, font des adultes équilibrés qui ont une confiance raisonnée dans les autres et qui n'ont pas de problème au niveau sexuel. Ce qu'on appelle des problèmes au niveau sexuel, c'est des blocages, tu ne me touches pas, ça me donne des boutons, alors qu'en fait, au départ, je le désirais, ou alors une sexualité qui est très liée à tout ce que j'ai vécu à l'adolescence avec les films porno, etc. Là, c'est l'intimité est joyeuse et simple. Deuxième groupe de singes, on leur fait peur. Il y a dans la cage une momie en forme de maman singe. Là, il y a un contact, mais c'est quand les parents étaient très pris par tous les enfants, le travail, etc. Il n'y a pas la chaleur humaine. Cela commence à douter d'eux, douter des autres, et commence à avoir des problèmes de relations humaines et dans l'intimité. Troisième type de singe, on leur fait peur. Il y a un fil de fer en forme de maman singe. Ça, c'est l'éducation qui était uniquement par la dureté. Ceux-là ont tous des problèmes de manque de confiance en soi et dans les autres, et des problèmes de relations intimes. Je connaissais une personne qui me disait « Mon père m'a appris trois choses, méfiance, méfiance, méfiance. » Ce qui est juste, c'est pas avoir une confiance irraisonnée, et après on en prend plein la figure, et après plus jamais, mais une confiance raisonnée. Quatrième groupe de singes. On leur fait peur, il n'y a personne dans la cage. Personne pour les recevoir. Eh bien, ceux-là ont tous une personnalité déséquilibrée plus tard. Vous savez, au moment de la guerre en Angleterre, on s'est aperçu que les petits-enfants, il y avait une nurserie où il y avait une nurse pour 10 petits-enfants, ils avaient tous perdu leurs parents. Ils avaient plein de jouets, mais ils manquaient de contact physique. Un tiers meurt la première année et un tiers a de gros problèmes. Alors on s'est demandé, mais comment sortir? Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une sortie. Surtout avec l'amour de Dieu. Parce que si vraiment je sens qu'il y a une source d'amour constante qui est là, permanente, toujours là, la fidélité absolue d'un amour, un grand amour, nous vivons un grand amour, pourquoi le chercher ailleurs? Eh bien, à ce moment-là, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais enfin, ça partait bien. Pardon? Ah oui, alors la porte de sortie, oui, voilà, merci beaucoup, merci mes frères, merci. La porte de sortie, quand je suis fatigué, ça se perd, ça se coupe, et voilà, mais du coup, finalement, ça... Comme ça, ça montre combien j'ai besoin de vous. Alors, la sortie. Plus tard, c'est ce petit singe qui n'avait pas reçu l'affection. On les met dans une cage, devenu adulte, avec des petits singes. On fait peur aux petits singes. Ils s'accrochent à l'autre qui les repousse. Mais il y en a qui, quand même, par persévérance, arrivent à trouver, et c'est ce que Jésus vient faire, à trouver l'ouverture et à réouvrir les bras. Alors, s'il vous plaît, ouvrez les bras. Est-ce que vous avez chez vous une représentation de Marie, du Seigneur, les bras ouverts? Dans mon cabinet à Paris, il n'y a que ça. Je vois toutes les souffrances du monde. Mais il y a Jésus qui prend ses brebis, blanches et grises, et qui les prend contre sa joue. De Kakuna, il y a le Père Céleste qui prend son enfant dans les bras. C'est tout part de là. C'est pas extraordinaire, mais tout part de là. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs langages de l'amour et l'Emmanuel le sait. Et donc, aimer, ça va être apprendre à développer les langages que vous n'avez pas jusqu'à présent. Mais ça va mettre parfois des mois, des années. Il y a ceux qui montrent leur amour par des services, par le faire, par le bricolage. Et il y en a d'autres qui le montrent par des gestes, par des regards, par des paroles. Quel est le langage dont tu as besoin pour te sentir aimé? Et comment ça se fait aujourd'hui, c'est ma responsabilité, que je ne me sens pas aimé, que je ne trouve pas ma place, que je pense que je n'ai pas de vocation, alors qu'il y a un débordement d'amour en moi? Est-ce que vraiment j'ai réalisé que Dieu m'habite et même que le meilleur est devant moi? Alors comme il doit pour rester 2 minutes, combien? Alors je vais terminer par une prière, si je la retrouve, oui. Une prière extraordinaire pour moi et qui a fait, c'est pour ça que j'ai été psychologue. C'est une prière attribuée à François d'Assise et que certains disent que c'est Monseigneur Sunens, belge, qui l'a ramené. Et je fais des émissions qui passent le matin 2 minutes pour que les gens vivent leur journée plus positivement. Et ça s'appelle le psy vous réveille. Dans le silence de ce jour naissant, je veux te demander, Seigneur, la paix, ta paix, la sagesse et la force. La paix, la sagesse et la force, tu l'as mis en moi et que je m'y connecte tout au long de la journée. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec tes yeux tout remplis d'amour, tes yeux, Seigneur. Tes yeux de lumière, être patient comme tu l'es avec moi, compréhensif, doux et sage. Et voilà une phrase qui pour moi est la base. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même et ne voir que le bien en chacun. Ou de voir d'abord le bien pour ne pas le confondre avec ce que je n'aime pas. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à tout cancan, à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Dieu est bienveillant. Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde Dieu malveillant? Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme, bien que, mais ce qui en sort, qui le souille, dit Jésus. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Nous avons tous cette faculté de demander la bénédiction sur les autres, la bénédiction de Dieu. Que je sois si bienveillant et joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent, non pas que je suis quelqu'un de bien, non pas que je suis un beau vitrail, mais ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, alors j'accepterai qu'on me dise que je suis belle et que je suis beau, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen.